Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Il y a 40 ans aujourd'hui, les Québécois répondaient à une question beaucoup trop longue, beaucoup trop compliquée.
Oui.
Ils disaient non pour la première fois au référendum pour la souveraineté, association, la souveraineté du Québec. On va en discuter évidemment avec notre ami l'historien Denis Anger que je rejoins au bout du fil. Salut Denis.
Allô Jonathan, bien oui, il y a 40 ans, 20 mai 80, ça faisait plutôt beau d'ailleurs. Ce qui avait contribué à un taux de participation exceptionnel, il y avait plus de 85% des Québécois qui étaient allés voter dans ce premier référendum sur la souveraineté association avec une question. J'ose même pas vous la répéter parce qu'on n'a plus du tout notre temps. Elle faisait 115 mots, elle était alambiquée, enfirouapée, bien compliquée. Mais dans le fond, la question, c'était oui ou non à Québec indépendant ou, évidemment, dans l'autre camp, à la séparation du Québec du reste du Canada. Quelle affaire, à quelle époque?
Denis, j'adore évidemment quand tu nous racontes les faits historiques, mais j'aime aussi quand tu nous racontes comment toi t'as vécu certains de ces faits-là avec ton expérience, ta sagesse. En 80, là, le 20 mai, toi, t'étais où à ce moment-là? Est-ce que t'étais dans les médias? T'étais au soleil?
Oui, j'étais journaliste au soleil. J'avais couvert l'ensemble de la campagne référendaire pour le soleil, l'histoire. Je me promenais à travers le Québec et j'avais un mandat assez clair. C'était d'identifier des groupes qui n'étaient pas forcément assimilés à au oui ou au non. Par exemple, les anglophones pour le oui, les vieux pour le oui, les jeunes pour le non, les nationalistes pour le non. Et j'avais passé toute la campagne sur le terrain. Et je me souviens, j'étais à Montréal le soir de l'annonce des résultats et je me souviens très bien de M. Lévesque. Il disait, si j'ai bien compris, à la prochaine. Hein, on s'en souviendra de ces mots de René Lévesque qui avait fait une campagne qui était du René Lévesque, hein. C'est un type qui était charmeur, charmant. C'était un extraordinaire pédagogue, un raconteur. Mais c'était pas un gars qui était très organisé, hein. On disait qu'il était brouillon. Et il s'était brouillé plusieurs fois avec son propre parti dans toute la démarche qui avait mené au référendum, Jonathan. Ils sont au pouvoir, les péquistes, depuis 1976. 15 novembre, élection surprise, Bourassa battu, majoritaire. Ils vont constituer une équipe ministérielle qui est presque l'équipe du tonnerre de Lesage revisitée, puisque autour de lui, M. Lévesque a quand même des gens de grande envergure. Jacques Parizeau, là, Jacques-Yvan Morin, là, Camille Lorrain, là, David. Le plus de diplômes de doctorat universitaire dans ce gouvernement qu'il n'y en aura jamais. Et évidemment, eux autres, leur but, c'est de faire la souveraineté association du Québec, hein, c'était la cause du départ de M. Lévesque du Parti libéral. Il avait créé ce qu'on appelait le mouvement Souveraineté Association, devenu en 68 le Parti québécois. Mais on ne s'entend pas ni sur quand, ni sur comment, ce qui fait qu'ils sont d'abord un bon gouvernement. Honnêtement, le bilan du premier mandat du PQ est assez resplendissant. La loi 101, par exemple, la fin de l'éternel débat sur la langue, Camille Lorrain s'est adopté. La protection du territoire agricole s'est adoptée. La réforme du Code du travail, la loi anti-briseur de grève, la création de la société de l'assurance automobile, la responsabilité auto sans faute. Hein. Les plus jeunes n'ont pas connu l'époque où lorsque tu avais une collision, c'était bien compliqué parce qu'il y avait bien des avocats, bien des problèmes et bien des difficultés à être remboursé pour tes problèmes. Donc le bilan est bon. Ils sont tellement occupés à gouverner qu'ils en oublient l'engagement de tenir un référendum qui n'était pas évident. Hein. Vous savez qu'au Parti québécois, en 68, en 70, en 73, pas question de référendum. C'est l'arrivée d'un drôle de personnage, Claude Morin, ministre des Affaires intergouvernementales canadiennes, dont on connaît les liens un peu, comment dire, nébuleux, douteux avec les services de renseignement canadiens. Mais Morin arrive en disant, il faut faire quelque chose, parce que si on pose la question simple, donc, voulez-vous que le Québec devienne indépendant, zéro chance, il n'y a pas 30% des gens qui vont l'appuyer. Donc, ils vont, enfirmoiter la question, en faire ça à 115 mots. Et ça va créer des divisions assez profondes au sein du Parti québécois. Par exemple, Jacques Parizeau, Camille Lorrain, Pierre Marois, qui sont plus sur l'aile, allons-y pour la réalité. Monsieur Parizeau dit, regardez, peu importe ce que l'on fait, une horloge arrêtée donne l'heure exacte deux fois par jour. Donc, il suffit de garder le cap et tôt ou tard, ben, la majorité de la population va se rallier. Mais au terme d'un débat qui n'en finit plus, finalement, ils adoptent cette question-là. Le Parti québécois, qui a de très bons parlementaires, qui a de très... Il y a Lise Payette, par exemple, qui est la star ministre de la Consommation, qui est la star un peu de ce gouvernement-là, ben, ils vont rapporter assez clairement le débat sur la question et le débat sur l'organisation du référendum. On va créer le camp du oui, le camp du non. Évidemment, le oui, c'est M. Lévesque. Le non, c'est M. Ryan, Claude Ryan. On l'a compris, lui, mais il avait été élu chef du Parti libéral à la suite du départ de M. Bourassa en 1976. M. Ryan est assez austère, donc sur un débat, évidemment, comment dire, il ne fait pas le poids face à M. Lévesque. Et il va falloir que, comment dire, la question se règle en provenance d'Ottawa. Ce qui est curieux, et c'est un peu la raison pour laquelle les péquistes avaient attendu, parce que Pierre-Éliott Trudeau, le père, évidemment, est premier ministre en 1976, il s'achemine tranquillement vers une défaite en 1979 aux mains de Joe Carr, le conservateur. Fait que les stratèges péquistes, on va attendre que Trudeau ne soit plus là. Clark s'est engagé publiquement à dire, nous, le gouvernement fédéral, on ne se mêlera pas de la question référendaire au Québec. Donc, les augures sont bien alignés, 1979. Clark comme une erreur, une taxe sur les produits pétroliers qui ne passe pas, perd le pouvoir. Trudeau reprend le pouvoir et ça va complètement changer la donne. Pierre Trudeau, Marc Lalonde, qui est son chef de cabinet d'abord, puis son ministre de la Justice, et surtout Jean Chrétien, qui est le ministre responsable du dossier référendaire, vont embarquer dans la campagne, et pas rien qu'à peu près. Donc, il va y avoir une campagne assez particulière, une campagne un peu de crainte, de peur. Vous savez, les gens ont peur de perdre leur assurance emploi, les pensions fédérales, qu'est-ce qui va se passer avec le dollar. Et M. Lévesque, qui était un assez remarquable debater, hein, c'est un type de campagne, ben, en termes de contenu, en termes de capacité d'expliquer, il dit, faites-moi confiance. Mais les gens en face voient Trudeau qui leur dit, regardez, il faut pas avoir confiance, faut être sûr. Et surtout, M. Trudeau va s'engager dans le dernier droit de la campagne, au moment où les sondages commencent à bouger. Au début de la campagne, le non, 70%, le oui, 30%. Tranquillement, le oui avance. Et quelques jours avant, un sondage léger. D'ailleurs, Marcel Léger, le fondateur, est à ce moment-là ministre dans le gouvernement de René Lévesque, annonce que pour la première fois, le oui a une infinitésimale avance et Trudeau, à ce moment-là, décide de frapper le grand coup. Assemblée publique à Montréal, des milliers de personnes qui sont là. Et il va expliquer assez clairement que aux Québécois, un non, c'est un oui. Ah bon? Oui devient un non. C'est-à-dire qu'il dit, si vous votez non, ce n'est pas un non à tout, c'est un oui à une profonde réforme de la société qui va refléter, qui va répondre aux aspirations des Québécois. Évidemment, ça va l'emporter, tout se cumule. Une campagne publicitaire, par exemple, assez intéressante, le gouvernement fédéral décide de se lancer à la chasse à l'alcoolisme. Et on va lancer, on va tapisser à la grandeur du Québec des affiches partout, des panneaux publicitaires. C'est marqué « Non, merci ». Or, le slogan du camp du non, c'est « Non, merci ». On va accuser, a posteriori, le gouvernement fédéral d'avoir dépensé des sommes à l'extérieur de l'enveloppe dévolue. Et moi, je suis là-dedans. Je vous dirais que le débat, il est absolument incroyable. Je pense que c'est un peu moins épouvantable qu'en 95. 15 ans plus tard, le débat va être encore plus déchirant pour les Québécois. Mais déjà en 80, le ton monte. Il y a des familles qui sont cassées, des gens qui ne se parlent plus, des beaux-frères qui offrent des tapes sur la margoulette aux beaux-frères. Donc, il y a une espèce de curieux sentiment qu'on est à l'approche de quelque chose qui va être nouveau, le début d'un temps nouveau, porté par les intellectuels, la gauche, la social-démocratie québécoise, les gens qui ont cru au Parti québécois. Donc, les plus jeunes, les plus scolarisés, les gens qui ont des moyens, les gens qui sont moins, comment dire, tributaires des transferts de fonds, qui n'ont pas trop besoin d'assurance emploi, qui ont pas trop besoin d'assurance d'aide sociale. Donc, le Québec est déchiré. Le Québec est riche et instruit, et canadien, français, catholique, par rapport au reste du Québec. Il y a deux Québec à ce moment-là. Et le Québec qui va dire non, puis évidemment, en fin de compte, il va être presque une fois et demi plus important que celui qui va dire oui.
Mais Denis, dis-moi, je veux qu'on aborde le climat post-référendaire, parce que moi, évidemment, bon, je suis plus familier que le référendum de 95 où on a senti un Québec qui a eu des cicatrices, là, un Québec meurtri au lendemain de ce référendum-là, une grande déprime pour bien des gens, mais au lendemain du référendum de 80, il y a assurément une portion de la population qui poussait un soupir de soulagement. Mais celle qui appuyait le oui, est-ce qu'il y avait quand même un vent d'optimisme? Parce que quand même, il y avait des gains qui avaient été faits pendant le référendum. Certains prévoyaient un appui moins important que ça. Est-ce que il y avait un enthousiasme de se dire, bon, ben OK, on se retrousse les manches, puis vraiment, comme René Lévesque le dit, on se dit à la prochaine fois. C'était quoi le climat post-référendaire?
Ben, c'était moins déprimant qu'après 95, parce que 95, ça a été tellement serré, hein, quelques dizaines de milliers de voix. En 80, ben, il y a un écart assez important, 59,45% de non par rapport à 40% et des poussières de oui. Monsieur Lévesque, évidemment, on lui reproche un peu d'avoir fait une campagne assez ordinaire. Les purs et les durs de son parti, ceux qui croient à l'indépendance, d'abord vont lui dire, on vous l'avait dit, on savait, c'était une question qui ne répondait à rien. Et il n'y aura pas cette déprime parce que, assez rapidement, souvenons-nous, 1980, une année après, problème, crise économique assez lourde. Pendant presque 3 ans, le Québec va être, l'économie va être complètement, presque à l'arrêt. D'ailleurs, l'année suivante, le gouvernement Lévesque va décréter une réduction de 20% des salaires des fonctionnaires. Et les fonctionnaires, encore aujourd'hui, ceux qui étaient là en 80, ont encore une crotte sur le cœur à l'endroit du Parti québécois là-dessus. Donc, assez rapidement, on va aller à autre chose. D'autant plus que M. Trudeau a promis qu'un non serait oui. Donc, on attend des propositions d'Ottawa qui vont venir dans l'année qui va suivre. Évidemment, ça va se solder par le rapatriement de la Constitution, la Charte des droits et libertés du Canada et la nuit des longs couteaux où M. Lévesque a tenté de créer un fonds commun des premiers ministres provinciaux va être un peu abandonné par ses alliés des autres provinces et ça va continuer au rapatriement de la Constitution que le Québec n'est pas encore fini. Rappelons-le, le dossier constitutionnel, évidemment, on est en pleine pandémie et c'est pas le moment pour rouvrir ça. Il y a personne qui ose même penser à aller chercher la boîte dans laquelle ça se trouve. Mais c'est quand même un dossier qui est courant, qui est pas terminé, qui est pas finalisé. Ce qui veut dire que 40 ans plus tard, les grandes questions posées par le référendum de 1980, ben, il reste encore des réponses à apporter.
Absolument, absolument, mais c'est important, on a le devoir de mémoire, même si on est dans une période remplie de turbulences quand même, c'est un anniversaire absolument non négligeable, et on le souligne comme il se doit. Denis, c'est toujours un immense plaisir, on se reparle la semaine prochaine.
La semaine prochaine, dans un Québec qui va de mieux en mieux, mon cher Jonathan.
Voilà, espérons que ça va se maintenir. Merci, Denis.
Salut, bye.
Salut.